Retour donc sur la guerre à Gaza, la situation dramatique que vivent les Gazaouis. À présent, avec nous pour en parler en direct de Deir el-Bala, entre Rafah et Gazaville, Marie-Elisabeth Ingres, coordinatrice d'urgence à Gaza pour Médecins sans frontières. Bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Déjà, nous allons bien sûr aborder votre demande concernant le démantèlement de GHF, la fondation soutenue par les États-Unis qui distribue seule l'aide humanitaire, et pourquoi vous souhaitez ce démantèlement. Mais avant, vous êtes de retour dans la bande de Gaza depuis 2 semaines. Avez-vous personnellement, Marie-Elisabeth Ingres, constaté des changements majeurs depuis votre dernière mission ?
Je vous remercie. La dernière fois que j'étais à Gaza, c'était en 2019. Et je peux vous assurer que ce que je vois aujourd'hui, c'est un tout autre Gaza. Je ne reconnais plus rien. Le nord de Gaza est complètement détruit. Et de plus, comme l'offensive israélienne continue, et de façon assez intensive d'ailleurs ces derniers jours, il y a des tentes partout, sur la plage, dans les rues, au milieu des décombres. Et dans le sud, ce sont des camps de déplacés, des camps de tentes à perte de vue. Et ce qui est choquant quand on connaît Gaza, c'est que c'était un endroit très urbain. Les gens vivaient comme nous, dans des maisons, avec l'eau courante et l'électricité. Et là, on vit dans les tentes, dans le sable, dans la poussière. Je ne sais pas combien il y a de toilettes ou de douches par habitant, mais il n'y en a pas suffisamment. Les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont plus suffisamment de nourriture et d'eau. On les voit faire la queue avec des jerrycans pour prendre de l'eau aux différents points d'eau qu'on a tenté de mettre en place un petit peu partout. Donc c'est une situation, quand on connaît Gaza, qui est un peu apocalyptique, qui est extrêmement choquante.
Alors justement, comment se déroule concrètement la distribution de l'aide humanitaire à Gaza aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui c'est très compliqué parce que avec depuis 100 jours ou presque, il n'y a presque plus rien qui est rentré à part à travers cette fondation qui a été créée, la Gaza Humanitarian Foundation, et où quelque part il y a eu cette volonté de prendre la place des Nations Unies en considérant que l'assistance humanitaire qui était fournie auparavant ne fonctionnait pas, alors que durant le cessez-le-feu, nous avons réussi les uns et les autres, les ONG et les organisations humanitaires des Nations Unies, à envoyer énormément de nourriture, de médicaments pour subvenir aux besoins de la population. Et là, pour vous donner un exemple, avant il y avait 400 points de distribution d'aide alimentaire, aujourd'hui il n'y a plus que 4. C'est 4 qui sont appuyés par cette fondation, mais avec selon ce que nous avons comme témoignage, hein, parce que nous ne sommes pas les témoins oculaires de ces distributions-là, mais nous recevons malheureusement les personnes qui ont été blessées sur place, et elles nous disent que c'est totalement chaotique, qu'elles arrivent dans un terrain où il y a les palettes qui sont disposées, à même le sol et les caisses, et que tout le monde essaie de prendre ce qu'il peut prendre, c'est le premier venu qui est servi. Et à côté de ça, du moment qu'il y a énormément de monde et de pression, tout d'un coup on leur tire dessus, ils sont pas vraiment capable de dire qui, mais au final on a des blessés chaque jour, au moins une centaine de blessés chaque jour, et une quarantaine ou une dizaine de personnes qui meurent. Donc ce sont des distributions qui sont mortelles, ce ne sont plus des distributions pour donner de la nourriture en fait. Les gens sont tellement désespérés que quelque part ils prennent le danger d'y aller, même s'ils savent que peut-être ils vont se faire tirer dessus.
Alors justement, vous dénoncez les agissements de GHF qui distribue l'aide humanitaire, et vous dites qu'il a été conçu pour humilier les Palestiniens, c'est ça ?
Oui, mais ce n'est pas que ça en fait. Si vous voulez, on a l'impression qu'il y a tout un système assez pervers en fait qui est mis en place par les autorités israéliennes pour donner le minimum qui va éviter que les gens meurent de faim, qui va éviter que les gens meurent de soif. Et donc tout arrive un peu au compte-gouttes. Donc on ne peut jamais anticiper, que ça soit pour les gens sur place ou nous en tant qu'acteurs humanitaires, pour essayer d'apporter un soutien. Donc en fait, ça ne donne pas la possibilité aux gens de pouvoir s'organiser, de pouvoir avoir quelque chose de correct. En fait, on a l'impression qu'il y a un chaos qui est organisé par les autorités palestiniennes, qui joue en plus entre les différentes familles, les différents groupes, etc. Et donc ce chaos amène de la violence, amène évidemment de la souffrance et encore plus de vulnérabilité auprès de ces populations.
Alors, Marie-Elisabeth Ingres, on a bien compris, vous ne pouvez pas accéder au centre GHF, justement. Vos équipes médicales, vous nous l'avez dit tout à l'heure, reçoivent chaque jour de nombreux blessés. Dans quel état ils arrivent? Ils sont blessés par balles, ils sont blessés par des éclats d'obus, par des éclats. Qu'est-ce qu'ils vous racontent exactement au niveau de leurs blessures? Qu'est-ce que vous constatez?
Ils sont essentiellement blessés par balles et ils sont en fait... Il y en a certains qui demandent vraiment des soins intensifs. Donc nous, en fait, pour vous expliquer, il n'y a tellement plus d'hôpitaux qui fonctionnent, à part quelques-uns. Il y a maintenant beaucoup d'hôpitaux de campagne qui ont été mis en place par les organisations humanitaires, mais ça ne couvre pas les besoins. Donc en fait, tous les hôpitaux sont surchargés. Donc comme on a cet afflux de blessés et de blessés très graves, ils arrivent même dans nos centres de santé, qui sont quelquefois des centres de santé primaires, où normalement on ne s'occupe pas de blessés graves. Et donc, quelquefois, on va faire un premier soin, on va être obligé de les transférer dans les quelques hôpitaux qui vont pouvoir les recevoir. Mais en fait, tout le monde est débordé. Je veux dire, il y a deux personnes par lit, il y a des hôpitaux, les patients sont dans les couloirs. Donc en fait... ces distributions ont des conséquences énormes sur le système de santé qui est déjà complètement détruit, il faut être honnête.
Alors, on voit bien là, que vous travaillez dans un chaos, dans un contexte extrêmement particulier, contexte de guerre, dans un petit territoire complètement bloqué. Est-ce que vous pouvez sortir librement? Est-ce que vous pouvez revenir? Comment ça se déroule très concrètement pour qu'on arrive à comprendre votre situation?
Bon, je crois que le concept de liberté est tout relatif à Gaza. Mais oui, on peut rentrer et sortir parce qu'il y a un système qui s'appelle la coordination. Donc c'est une sorte d'autorisation que nous demandons aux Israéliens. On donne les listes de personnes qui veulent rentrer à Gaza ou qui veulent sortir à Gaza. Elles sont soumises aux autorités israéliennes qui ensuite nous disent si c'est possible ou pas de rentrer. Et ensuite, nous devons tous partir depuis Amman, en Jordanie. Et il y a ce qu'ils appellent un corridor humanitaire. On pourra toujours discuter de l'utilisation du mot humanitaire pour ce corridor. Et donc, nous sommes escortés depuis la frontière jordanienne jusqu'à Gaza par les autorités israéliennes pour rentrer dans Gaza.
Alors vous, MSF...
Mais tout ceci est très contrôlé.
Alors vous demandez encore une fois la levée du blocus sur les denrées alimentaires, le carburant, les fournitures médicales et humanitaires. En fait, et vous voulez revenir au dispositif qui existait auparavant, à savoir une aide coordonnée par les Nations Unies.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on l'a prouvé durant le cessez-le-feu, quand les Israéliens nous donnent un tout petit peu plus de liberté, et encore, il y a énormément de restrictions sur certains produits, etc., mais on a prouvé qu'on pouvait tous apporter énormément de soutien aux populations. On a envoyé énormément d'approvisionnement sur place. Donc, ce n'est pas parfait, parce qu'il y a plein d'autres questions qui rentrent en ligne de compte, mais au moins, on arrivait à envoyer... ce qu'il fallait. Là, aujourd'hui, nous, on a nos équipes qui distribuent de l'eau et chaque jour, on se dit, si on n'a pas suffisamment de carburant, est-ce qu'on va être capable de faire tourner les générateurs et de faire tourner les forages pour que les gens aient de l'eau? Les quantités d'eau qu'on leur donne sont ridicules. Elles ne sont pas suffisantes au regard, je dirais, des standards auxquels, normalement, on devrait répondre.
Et enfin, dernière question, comment vous sentez la population palestinienne? Qu'est-ce que les Palestiniens vous racontent? En quel état d'esprit ils sont aujourd'hui?
Ils sont désespérés, ils sont fatigués, ils s'accrochent à toute nouvelle qui parle de cesser le feu. Et à chaque fois, moi, ça me rend triste parce que je ne sais jamais combien de temps ça va mettre avant que ça arrive. Et qu'on sait aussi qu'avant un cesser le feu, il y a souvent une augmentation des bombardements. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des bombardements qui ne s'arrêtent pas. Au sud, au nord, c'est chaque jour qu'il y a des bombardements. Ils ont l'impression qu'on les a abandonnés. Ils ont l'impression que personne dans le monde ne s'occupe d'eux. Ils ne comprennent pas très bien ce qu'on attend d'eux. Ils sont terrifiés à l'idée que tout le monde pense qu'ils sont tous Hamas, qu'ils sont tous des terroristes, alors qu'en fait, ce sont juste des hommes, des femmes qui essaient juste de vivre leur vie et qui vivaient leur vie avant. Et là, en fait, ils se retrouvent complètement, oui, humiliés. Ils se retrouvent dans une situation où on les parque et on leur demande même pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucun choix. Ils ne peuvent que subir.
Marie-Elisabeth Ingres, vous êtes coordinatrice d'urgence à Gaza pour Médecins Sans Frontières. Merci beaucoup. Vous étiez en direct de Deir el-Bala entre Rafah et Gazaville.